Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand Reportage s'intéresse aujourd'hui aux nouvelles pratiques de la photographie entraînées par la technique numérique. Cela fait des années qu'amateurs et professionnels ont totalement changé leurs habitudes, alors que le matériel photo n'a jamais été aussi facile à utiliser et d'aussi bonne qualité. Photographe, le numérique a tout changé. C'est un grand reportage signé Edmond Sadaka.
Avant, la photographie privée, elle était dans les albums de famille et les photographies qu'on voyait dans l'espace public, c'était les images des professionnels. Aujourd'hui, la photographie privée, elle est sur les réseaux sociaux et elle noie complètement les images des professionnels.
Samuel Bollendorf, photographe indépendant.
Des professionnels qui ne sont en plus même plus dans certains médias. Donc continuer à trouver une existence dans ce flot, ça veut dire essayer de produire autrement, d'écrire autrement avec la photographie. Et donc les photographes sont extrêmement précarisés.
De plus en plus difficile en effet de trouver ses marques dans un métier où toutes les règles ont été changées. Un autre photographe de renom, Yann Arthus Bertrand, que le grand public connaît bien notamment pour sa série La Terre vue du ciel, se sent lui envahi par ce flot ininterrompu de photos sur les blogs, les réseaux sociaux ou encore les médias.
On vit dans un tel moment d'image où l'image est en permanence partout sur ton téléphone toute la journée. On est un peu agressé par les images, même les images sur le changement climatique, même sur la pauvreté, même sur les réfugiés. Quand ces images, elles ont pratiquement plus de sens parce qu'elles sont usées. Nos yeux sont usés à ça. L'autre jour, j'étais à la télévision et on me montrait des images de cyclones en Floride. Mais je disais, ces images, on les voit tous les jours, quoi. C'est l'incendie, inondation, tempête, cyclone, tsunami. On est habitué à voir ces images aujourd'hui. C'est assez compliqué, en fin de compte, tout ça.
Jamais la photographie n'a donc été aussi présente dans notre vie de tous les jours. Tout le monde, ou presque, la pratique avec plus ou moins de bonheur. Les autodidactes se multiplient, d'autant que la machine technologique, elle, ne cesse de s'accélérer. On est bien loin, décidément, de la pellicule qui coûtait cher à l'achat et au développement et qui nécessitait parfois un travail d'artisan. Aujourd'hui, tout est plus ou moins automatisé et cela aide beaucoup à faire de belles images presque tout de suite. Jean-Christophe Béchet est photographe, il est l'auteur de nombreux livres de photos.
La technique photo s'est quand même beaucoup facilitée. Les photos prises avec les smartphones, elles peuvent suffire pour beaucoup d'utilisations. Moi, j'ai fait une école de photo il y a 30 ans. 80% de ce que j'ai appris n'est plus très utile professionnellement. Il est utile artistiquement comme un savoir-faire, mais comme un savoir-faire qui n'a pas une existence réelle au niveau économique, puisque pour beaucoup de gens, la photo à un niveau assez basique suffit largement pour leur utilisation, qu'elle soit familiale, commerciale ou tout simplement d'avoir le plaisir de voir des belles images.
De belles images avec des couleurs vives et bien saturées, on peut donc aujourd'hui en obtenir en vacances par exemple avec un smartphone de bonne qualité. De plus en plus d'amateurs ont d'ailleurs totalement abandonné leurs appareils photo. C'est le cas par exemple de Raphaël, 28 ans, et il est loin d'être le seul.
Je prends plus du tout de photos avec des appareils photo classiques ou des réflexes, j'utilise uniquement mon smartphone. Et la qualité convient largement aux photos que je fais pour le loisir. Je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui se généralise. Nous, on a eu tous une époque où on a commencé à s'acheter des appareils photo, un peu des réflexes, etc. Il y a eu la mode où on a tous un peu eu envie d'apprendre à faire des photos. Et là, avec l'arrivée des smartphones et la qualité des photos, on a tous abandonné et on part tous en vacances uniquement avec nos smartphones et ça nous convient très bien.
Le premier smartphone au monde équipé d'une triple caméra conçue avec Leica et doté d'intelligence artificielle. La photographie ne sera plus jamais la même.
Les smartphones vont-ils alors dans les années à venir tout balayer sur leur passage? Eux qui avaient déjà pris la place des baladeurs numériques pour la musique, pourront-ils supplanter les appareils perfectionnés destinés aux professionnels? Ce n'est pas si simple d'après Jean-Marie Sépulcre. Il est rédacteur dans la revue mensuelle Le Monde de la Photo et il passe au crible toutes les nouveautés.
Le smartphone peut remplacer, et même assez rapidement, les petits compacts familiaux, parce qu'il a un avantage, c'est qu'on peut envoyer les photos dans le monde entier absolument immédiatement, qu'elles sont maintenant de bonne qualité, que si on veut tirer un agrandissement pour mettre dans son salon, on le peut. En revanche, pour toutes les applications un peu complexes, le smartphone n'est absolument pas capable de faire ni de la chasse photographique, ni des courses de voiture. Ça lui est absolument interdit dans les circonstances actuelles. Or, on voit bien des smartphones sortir avec plusieurs objectifs, tel objectif grand angle. Ça reste quand même limité. Le jour où on aura un smartphone avec un grand zoom, ça deviendra en réalité comme un gros compact avec une fonction téléphone. Ça ne sera plus un smartphone extra plat dans la poche comme celui qu'on peut trimballer tous les jours.
Le grand piège dans lequel nous tombons tous depuis l'arrivée de la photo numérique et notamment du smartphone, c'est de multiplier presque à l'infini les prises de vue.
Les gens font trop, ils appuient comme des malades sur leur déclencheur et ils se retrouvent avec tellement d'images qu'ils ne savent plus choisir.
Françoise Vachon, responsable d'une célèbre boutique photo à Paris.
Donc là, il y a un souci, il faudrait leur apprendre à déclencher beaucoup moins et le problème, il est là. Trop d'images, tue l'image, ils en font trop. Ils sont incapables de choisir quelle est la bonne. Mais moi, avec 20 images de la même prise de vue, ça serait une catastrophe. Donc, ces images-là, il y en a trop.
Dans la famille, tout le monde fait aujourd'hui des photos du père au plus jeune des enfants. Et elles s'accumulent par milliers, ces photos, sur les disques durs des ordinateurs. Mais les regarde-t-on vraiment ?
Sur l'ordinateur, j'ai l'impression qu'on les regarde éventuellement une ou deux fois. Mais assez peu.
Irène Jonas est sociologue et photographe, auteur notamment du livre « Mort de la photo de famille, de l'argentique au numérique ».
On ne va pas aller consulter les photographies sur l'ordinateur comme on pouvait s'asseoir sur un canapé et consulter l'album de photos de famille tous ensemble, ça c'est certain. Après, je pense qu'il y a un souci quand même d'avoir des images sur papier, parce que les gens ont tout doucement pris conscience que la pérennité de ces photos sur ordinateur n'était pas fiable. J'ai rencontré des gens qui avaient perdu 3 ans de photos de famille parce qu'ils n'avaient pas pensé à faire des sauvegardes, parce que c'est pas une pratique quotidienne que de faire des sauvegardes des photos.
Car en effet, perdre toutes ces images par la faute d'un clic maladroit ou d'un disque dur qui a la mauvaise idée de tomber en panne, c'est très contrariant. Cette mère de famille d'une trentaine d'années, Jeanne, en sait quelque chose.
On a tellement de photos que j'essaye de les enregistrer sur le cloud, sur mon Google Drive. Je prends des abonnements pour avoir des albums sécurisés. En plus, je les ai sur mon téléphone, je les envoie en message WhatsApp à tout le monde. Donc je me dis que je vais avoir une trace si jamais je me fais voler mon téléphone, si mon cloud et si mon Gmail crash. Et à chaque fois, je me dis, mais si je perds tout, en fait, à partir de mes 16 ans, j'ai plus rien parce que jusqu'à mes 16 ans, on imprimait les photos et après, c'est que des photos numériques et donc j'ai pas de traces.
Comme Jeanne, beaucoup paniquent à l'idée de perdre toute la mémoire de leur famille à cause d'un problème informatique. La preuve, depuis quelques années, un phénomène se développe, créer soi-même et par le biais d'Internet ses propres livres photos. On est loin cependant des traditionnels albums qui retraçaient l'histoire de la famille, la photographe et sociologue Irène Jonas.
Ce qui se développe le plus est de faire un livre photo autour d'un événement. Là, ça devient plus facile parce que sur tel événement, par exemple une cousinade, une sortie en forêt, il y a moins d'images et ça permet de faire un album thématique. Ce qui change, je pense radicalement, l'esprit de l'album photo qui s'inscrivait dans le temps et dans l'histoire familiale, alors qu'aujourd'hui, le livre photo s'inscrit dans l'événement.
Et parmi les adeptes de ce livre photo, il y a Hélène, 60 ans. Elle consacre à cela de longues heures de travail devant son ordinateur.
J'aime bien travailler sur l'ordinateur, donc je réutilise toutes mes photos, je les mets en forme et je les constitue dans un bouquin. Voilà, et c'est très pratique, j'y passe 2-3 soirs et au bout de quelques jours, je reçois mon album tout fait, il est magnifique et il est, comment dire, immortel, c'est-à-dire qu'il s'abîmera jamais.
Si les amateurs ont changé totalement leurs habitudes photographiques avec l'arrivée du numérique, que dire alors des professionnels ? Eux ont dû s'adapter depuis de longues années déjà, car tout a été bouleversé dans leur métier. Dominique Sagot-Duvauroux est économiste de la culture, spécialiste de la photo.
La photographie est sans doute le secteur culturel qui a subi les plus forts bouleversements occasionné par le numérique, plus même que le secteur de la musique qu'on met souvent en avant. La photographie, en fait, a rencontré une révolution numérique relativement précoce, au début des années 90, lorsqu'on a commencé à numériser les images. Et ça, ça a permis à des nouvelles sociétés d'acquérir des fonds, de les numériser et de concurrencer au niveau mondial toutes les agences nationales qui existaient jusque-là. Il y a une seconde révolution numérique importante, c'était lorsque les photographes eux-mêmes ont commencé à prendre des images avec des appareils numériques. En gros, entre 1997 et 2005, l'ensemble des photographes professionnels opèrent leur transition de l'argentique au numérique. Et ça, ça va avoir aussi des conséquences importantes en matière d'organisation de la profession. D'une part parce que les photographes vont devoir s'endetter pour acheter ce nouveau matériel. D'autre part parce que avec ces prises de vue numériques, en fait, on va demander de plus en plus de travail de post-production aux photographes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis la troisième révolution numérique, sans doute celle qui a été la plus perfide en matière de revenus des photographes, c'est dès 2000, va se développer une offre de photographie quasiment gratuite sur Internet qui va faire que les photographes professionnels vont avoir de plus en plus de difficultés à vendre à un prix décent leurs images.
Et faute de trouver des débouchés et des financements, il est impératif pour un photographe, s'il veut par exemple couvrir un conflit, de trouver un angle d'approche très différent de la concurrence.
Je ne vais pas essayer d'aller faire les mêmes images, au même moment que l'AFP. Je ne suis pas concurrentiel.
Samuel Bollendorf, photographe indépendant.
Ça ne sert à rien que j'aille en Palestine photographier un mec qui jette un caillou alors qu'il y a un collègue de l'AFP à côté de moi. Mes images, elles arriveront trop tard et elles ne seront pas différentes. Donc, il faut essayer de faire des sujets de plus de recul. C'est de, pourquoi pas travailler sur l'événement, mais de revenir sur l'événement plus tard. Et donc, finalement, ça veut dire porter un autre point de vue sur l'actualité et le monde et un point de vue revendiqué comme celui d'un auteur. Et c'est comme ça qu'encore on arrive à trouver des petites niches où on peut encore faire exister des projets photographiques.
Le photographe Samuel Bollendorf, auteur de plusieurs web documentaires, primé notamment au festival du photojournalisme Visa pour l'image. Il ne se contente plus depuis longtemps de produire uniquement des images fixes, même si la photo reste au centre de son travail.
J'ai appris un nouveau métier, je suis devenu réalisateur. Et la photographie, notamment sur les écrans, sur le web, sur les téléphones, etc., elle devient audiovisuelle, elle appelle le son. L'idée, c'est effectivement de trouver les moyens et de trouver les nouvelles formes d'écriture adaptées à ces consommations qui peuvent être sur le web, sur des téléphones ou sur la télévision. Mais de trouver le moyen de faire en sorte que cette photographie, elle devienne plus audiovisuelle. Mais ce qui est important, c'est que ça reste de la photographie, en tout cas pour moi, quoi.
Mais pour les médias, aujourd'hui, l'image toute seule, elle n'est pas suffisante pour raconter l'histoire de ce qui se passe ?
Mais ça, c'est des mythes du XXe siècle. Pour moi, le fait qu'une image, elle est capable de tout raconter à elle seule, l'objectivité du journaliste. Parce qu'on en est revenu, on a bien vu. D'abord, une image, on sait très bien, on le sait aujourd'hui, qu'il suffit de lui accoler une légende dans un sens et elle dira quelque chose. Et on écrit exactement l'inverse et l'image se mettra à dire autre chose. Donc, c'est très important de ne pas laisser une image seule. Une image, elle est... Malheureusement, elle est trop silencieuse toute seule aujourd'hui dans la façon dont on les consomme, dans le brouhaha médiatique auquel elles sont confrontées. Elles ont besoin d'être accompagnées et même d'être accompagnées d'un message fort et donc d'un message revendiqué par son auteur.
Et dans ce brouhaha médiatique dont parlait Samuel Bollendorf, il reste cependant des secteurs où l'on peut encore espérer gagner sa vie lorsqu'on est photographe. La mode, la publicité, le luxe ou encore le marché de l'art. Et à ce propos, justement, la foire internationale Paris Photo, qui s'est tenue comme tous les mois de novembre, est une preuve éclatante de cette bonne santé. Le marché de la photo d'art se porte bien, les ventes atteignent parfois des montants vertigineux. Christophe Wiesner est le directeur artistique de Paris Photo.
La moyenne est autour de 10 000, mais beaucoup d'œuvres sont bien inférieures à 10 000 euros. On peut trouver, par exemple, une photo vernaculaire pour 500, 1000 euros, et même des éditions de jeunes artistes, et même d'artistes un peu plus, enfin, déjà confirmés, à des prix assez, je dirais, abordables. Donc, on peut très bien commencer une collection sans avoir des millions sur un compte en banque. Je crois que la photo d'art se porte bien, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des porosités entre les différents secteurs de la photographie. Surtout dans les dernières années, on a vu aussi une sorte de recrudescence d'une approche plus documentaire à nouveau sur la photographie. photographie, avec des sujets, je dirais, qui sont traités peut-être encore plus en profondeur qu'autrefois. C'est évidemment dû à cette crise peut-être du photojournalisme qui pense à reconsidérer et à repenser le sujet.
Autre secteur en vogue et qui permet de vivre de son métier de photographe, la photo dite corporate et qui permet aux entreprises de peaufiner leur communication. Alexandre Nestora a choisi cette voie depuis des années et la demande est forte.
Oui, il y a une très grande demande. Il y a une très grande demande qui vient aussi d'une mode de communication qui est de plus en plus importante par l'image, puisque l'Internet dévore de l'image à très grande vitesse, tout le temps, toute l'année. Et on doit fournir de l'image quand on est une entreprise, dire que tout va bien, que les gens sont heureux, et aussi pouvoir répondre à la demande de l'image et de la photographie durant des événements. Donc il y a effectivement, depuis maintenant environ 5 ans, une plus grande demande de la part des entreprises pour de la photo.
Il n'empêche, tous ces domaines qui fonctionnent plutôt bien concernent au final un faible pourcentage de professionnels. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Jean-Christophe Béchet.
Il y a encore quelques domaines qui existent, mais il y a beaucoup de domaines qui sont quand même maintenant, qui n'ont plus de réalité économique, comme la photo de voyage, comme le reportage, enfin la presse, le fait d'aller loin, parce que ça coûte cher en avion, ça coûte cher en tout, et que faut voir que le photographe a une particularité quand même un peu troublante. C'est que quand il fait un sujet, il est en concurrence avec le monde entier. Alors, ce qui n'est pas le cas d'un écrivain, parce qu'il y a quand même la question de la langue. Moi, je propose un sujet sur un magazine de voyage sur, le Groenland, parce que c'est arrivé. La personne m'a dit, mais moi, j'ai reçu des sujets faits par des Islandais, par des Norvégiens, par des gens même du Groenland qui ont fait des photos sur le pays. Donc, je suis en concurrence avec tous ces gens-là qui sont souvent très bons et qui vivent sur place et qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus. Donc comment justifier que moi je vais devoir y aller, dépenser beaucoup d'argent pour faire quelque chose alors que le sujet est déjà disponible à un prix bien moindre et fait par des gens sur place, parce que les photographes indiens, chinois, japonais, tout ça, on voit des photos dans le monde entier, ça voyage très facilement et ça peut très facilement être choisi par un éditeur ou un magazine français. Donc c'est pour ça que ce métier de photographe à travers ces activités-là est quand même devenu une mission un peu désespérée.
Et pourtant, malgré le chômage qui guette et cette mission désespérée, selon Jean-Christophe Béchet, les écoles de photo continuent de faire le plein. Dominique Sagot-Duvauroux, économiste spécialiste de la photo.
C'est un des paradoxes de l'économie de la culture et de l'économie de la photographie en particulier, que de voir le nombre d'artistes ou de photographes augmenter alors même que les revenus baissent. Normalement, en économie, on nous apprend en première année que si les revenus baissent, normalement, il va y avoir moins de personnes qui vont se positionner sur ce marché, sur un marché du travail particulier et qui vont aller ailleurs. Et donc, ça va rétablir les prix. Dans les secteurs culturels, c'est pas du tout ce qui se passe. On se rend compte que pratiquement dans tous les domaines, on a une augmentation assez importante du nombre d'artistes ou de techniciens dans ces secteurs-là, alors même que les revenus s'érodent. Une étude du ministère de la Culture avait notamment montré que le nombre de photographes avait augmenté de 37% entre 1995 et 2010, 15 années qui sont pourtant des années de crise pour la photographie. Donc ça, c'est une réalité. C'est des métiers qui attirent parce que c'est des métiers passionnants, c'est des métiers où il y a plein de choses encore à faire, à dire. Et en même temps, les perspectives de revenus sont faibles. Donc en fait, pour arriver à vivre aujourd'hui de la photographie, on peut plus être simplement photographe de presse ou bien photographe d'art. Il faut nécessairement explorer l'ensemble des débouchés potentiels d'un photographe. Pour s'en sortir, il faut vraiment avoir un engagement de tous les instants. Sinon, on risque de se faire broyer et d'avoir une vie de déception.
C'était Photographe, le numérique a tout changé. Un grand reportage signé Edmond Sadaka, réalisation de Pierre Chaffangeon.